Mais apprendre à gérer ses émotions et les réactions des autres est crucial. Le TDAH et certains troubles comme le trouble d'opposition nécessitent un suivi adapté et un diagnostic professionnel. Plutôt que de punir, il faut écouter l'enfant, comprendre ses tensions et l'aider à développer des réponses plus adaptées pour l'avenir.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête, et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Dans les troubles du neurodéveloppement, ce qu'on appelle les comportements problèmes, les crises, les colères, etc., qui peuvent être spectaculaires et qui peuvent paraître très inadaptées, elles sont en fait l'expression pour des personnes qui ont moins de codes sociaux, mais la même chose que cet enfant tout venant qui à un moment a tapé, a mordu à l'école. C'est-à-dire, c'est une tentative de communication échouée, la personne n'arrivait pas à se faire comprendre, elle n'avait pas d'autre moyen, et donc c'est ce moyen qu'elle utilise parce qu'elle n'en a pas d'autre. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre quel était son besoin. Le besoin est toujours légitime, hein, que si la personne elle a besoin qu'il y a trop de bruit autour d'elle, ou elle n'arrive pas à se faire comprendre, ou à la fin, elle a envie d'aller aux toilettes. Peu importe, c'est toujours légitime. C'est le moyen que la personne déploie pour obtenir satisfaction de ce besoin qui est inadapté. En particulier pour les TND, les moyens peuvent être en plus étranges, au sens de pas ceux de la plupart des enfants. La plupart des enfants, la plupart des adultes, peuvent avoir des comportements problèmes. Quelqu'un qui s'énerve tout seul dans sa voiture parce que la voiture de devant ne démarre pas au feu vert, c'est un besoin légitime, mais pas forcément adapté. Et du coup, là, on peut avoir des comportements dits problèmes chez tout le monde. De en comprendre les mécanismes pour des personnes avec TND qui sont moins réceptives aux codes sociaux, pour pour les aider à se les approprier et à déployer des stratégies qui soient efficaces pour résoudre leurs problèmes, ce sera beaucoup plus fonctionnel qu'à un moment, si l'enfant il est gêné par le bruit dans la cour de récréation, eh bien qu'il apprenne à s'isoler, à demander de l'aide, à demander un objet pour se préserver, à s'éloigner de ceux qui font du bruit, ou à dire « stop, j'en ai marre », plutôt que de taper, eh bien, ce sera beaucoup plus fonctionnel qu'il y ait un TND ou qu'il n'y ait pas de TND. La neurodivergence, c'est un terme qui est utilisé pour décrire des personnes qui n'ont pas le fonctionnement qui est statistiquement le plus fréquent dans la population. On pourrait dire qu'une personne qui est neurodivergente, c'est une personne qui a un fonctionnement du cerveau qui est plutôt minoritaire par rapport à la population générale. Dans la neurodivergence, vous pouvez avoir des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, par exemple un QI nettement supérieur ou qui ont d'autres types de fonctionnement. Les TND peuvent rentrer dans la neurodivergence dans ce sens-là, si on veut. Pour certaines dimensions, c'est juste qu'ils sont minoritaires, donc il n'y a pas forcément des critères. On parlait tout à l'heure d'hypersensibilité, c'est un terme qui est entre guillemets à la mode, au sens où qui décrit des fonctionnements, mais qui n'appartient pas aux classifications diagnostiques des troubles tels que nous on l'entend. Pourtant, c'est véhiculé beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se retrouvent là-dedans. Dans la mesure où des gens, ça leur est utile et elles se retrouvent là-dedans, c'est intéressant que nous, on se renseigne là-dessus. Si la personne a des questions, il peut être intéressant qu'elle consulte son médecin généraliste, par exemple, pour un enfant. Si des parents s'inquiètent pour leur enfant qui trouve des comportements qui, eux, leur évoquent un TDAH, une forme d'autisme, un TND au sens large, le médecin généraliste va pouvoir orienter et répondre aux questions. Passer les signes d'appel essentiels du très jeune enfant sur des retards du langage, des retards de la marche, ce genre de choses, qui vont vraiment alerter plutôt l'autisme. Et puis on a de suivi, là vous voyez dans la politique du gouvernement des 1000 premiers jours, il y a tout un tas de stratégies, d'outils qui sont à disposition des soignants pour aider à objectiver les comportements et repérer des atypicités pour orienter le mieux possible vers un diagnostic le plus précoce possible. Pour des enfants qui parlent bien, qui ont un bon niveau de langage, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, ce critère-là un peu très précis pour nous, il est moins évident. Et pour peu que l'enfant parle bien et qu'à l'école, ça se passe pas trop mal, plutôt scolairement que relationnellement, l'enfant de bonnes notes, il n'a pas forcément beaucoup de copains, mais comme il a de bonnes notes, ça alerte moins. Bien que, je mets quand même un petit bémol là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants sont de plus en plus sensibilisés à cette question, et même si l'enfant réussit bien à l'école, vont être capables de repérer des petites choses. Dans la culture, au sens large, dans les séries télé, les films, il y a de plus en plus de personnes neurodivergentes. Il y a des personnes avec autisme, des personnes TDAH, qu'on en parle, qu'ils manifestent certaines formes, ça permet d'alerter. Il y a 15 ans, un reportage qui est passé sur France 2 qui s'appelait Cerveau d'Hugo, avec un film sur l'autisme et ensuite une interview en plateau de spécialistes qui parlaient de l'autisme. En France, au niveau national, le nombre de démarches diagnostiques qu'on a eues après ça, avec des gens qui nous ont dit « on a vu le cerveau d'Hugo, ça nous a interrogés parce que dans le cerveau d'Hugo, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est lui, c'est un tel », ça a fait exploser les demandes diagnostiques, c'était quand même très très intéressant. Parfois, ces personnages de la culture, des médias sont un peu caricaturaux, un peu excessifs, mais ils permettent d'abord d'être caricaturaux, type Sheldon Cooper, et ensuite d'être présents dans des films, dans des séries, de manière... C'est comme ça. C'est un détail, c'est l'expression de comment peut être un individu. Et là, on a passé un cap, c'est que ça devient banal. Et c'est intéressant que ça devienne banal, parce que du coup, ça permet à ce que tout le monde sache que ça existe, et s'interroge. Quand la personne me dit, moi je me demande si j'ai pas un TDAH, je me demande si mon fils, il aurait pas un autisme, ok, qu'est-ce qui vous fait dire ça? On en discute. On va échanger avec le généraliste, on va aller voir un spécialiste, et comme ça, on va pouvoir confirmer ou infirmer. C'est très rare d'avoir des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a toujours des signes d'inquiétude qui sont légitimes. Ces inquiétudes-là, pourtant, ne sont pas forcément de nature à coller au diagnostic du TDAH, de l'autisme. La personne est très agitée, elle s'agite beaucoup. Est-ce que c'est un TDAH? On creuse, et en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a une ouverture sur le monde, et voilà. Mais qu'il n'y a pas les critères au point que ce soit problématique. Et dans l'expression de la singularité de la personnalité, il y a des gens qui sont plus inhibés, d'autres qui sont plus agités. Toute la difficulté pour nous, c'est de faire la différence entre être dans les normes, quelqu'un qui est plutôt dynamique, qui bouge beaucoup, mais être à s'agiter tant et si fréquemment que ça en devient caractéristique du trouble et que donc c'est le reflet d'un trouble du neurodéveloppement, des briques en plus dans son sac à dos, dans son cartable pour aller à l'école, pour le soulager de ces briques-là. Si c'est juste l'expression de sa personnalité, de sa singularité, c'est super. Mais dans ce cas-là, ce ne sont pas des briques, c'est plutôt des dynamiques qui vont l'aider, ça va être plutôt des ressources. C'est quelqu'un de dynamique, ça va lui servir dans la vie d'être quelqu'un de très dynamique. Mais il peut être tellement dynamique que ça devient une brique, et c'est là où il peut y avoir de l'ajustement. C'est le continuum un peu du normal au pathologique, confirmer le diagnostic de troubles neurodéveloppement et mettre en place des modalités d'accompagnement en conséquence, mais ça peut être aussi écarter le diagnostic. Ce qu'on va proposer pour des personnes TDAH, elle peut aussi en bénéficier. C'est pas à cloisonner. Toutes les techniques d'intervention qu'on déploie pour des personnes avec autisme, des personnes qui ne sont pas autistes, elles sont très contentes d'en bénéficier. Ça va beaucoup les aider. Pour beaucoup, ils ont déjà, ils n'ont pas besoin. Mais en tout cas, c'est pas du tout perdu. Donc, dans le doute, on confirme ou on infirme le diagnostic. Mais s'il y a besoin ponctuellement d'un entretien, d'un suivi, d'un accompagnement avec un psychologue, par exemple, qui pourrait aider la personne à développer, elle, plus de stratégies pour mieux gérer cet hyperdynamisme qu'elle présente dans l'expression de sa personnalité, ça peut être un confort important pour elle. Si le diagnostic est confirmé TDAH, des soins spécifiques qui seront à mettre en place pour elle au regard de son TDAH. Il peut y avoir une singularité de l'expression en fonction du sexe, pour l'autisme, pour le TDAH un petit peu moins, mais aussi, c'est vrai par rapport au poids socioculturel et aux stéréotypes hommes-femmes dans lesquels les enfants grandissent et évoluent. Si je grossis le trait, une petite fille qui est très sage, qui est bien élevée, qui parle pas, qui va pas trop embêter les autres, qui chahute pas, qui escalade pas tout à la récréation, bah c'est une bonne petite fille bien élevée à l'école maternelle. Alors que si c'est un petit garçon, il est bizarre. C'est pas normal. Donc on va avoir des éléments, des points d'appel, avec des comportements qui sont attendus chez les filles. Chez les garçons, on va avoir une posture différente. Aujourd'hui, dans la prévention des violences sexuelles et sexistes, avec les différents plans qui peuvent exister en France, il y a quand même cette idée de travailler et d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge, de leur proposer même des enseignements dédiés, qui vise à déconstruire ces stéréotypes de genre-là. L'idée, c'est pas tellement de les nier, de dire ça n'existe pas, et d'avoir un regard critique. Quand on va expliquer à un enfant à l'école maternelle et qu'on va chanter des comptines comme « Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince », on pourrait dire « c'est une comptine sexiste, on ne la chante plus, pas très constructif ». Par contre, on pourrait demander aux enfants « qui y a dans l'histoire, comment vous savez, qui ils sont ?» pour les amener à réfléchir et à se rendre compte, eux, que bah, c'est une comptine dans laquelle il y a trois personnages, deux garçons et une fille. Donc il y a déjà dissymétrie. Sur les trois personnages, l'empereur et le prince ont un titre propre, alors que le personnage féminin n'a pas de titre. C'est la femme de l'empereur. Donc en fait, elle a, pour parler de l'impératrice, le même terme pour parler de la femme du boulanger ou de n'importe quelle femme du monde. Donc on voit bien qu'ici, il y a une description qui est déjà genrée et qui va induire dans une comptine banale une représentation différente de la façon dont on va considérer les hommes des femmes. Et ça, c'est pas tellement à bannir, c'est intéressant d'inviter les enfants à réfléchir à ça, d'en prendre conscience, de proposer une autre version de la comptine, de se l'approprier, de la chanter, pour que, en fait, ils puissent développer un sens critique et que ça ne soit pas diffusé, comme ça a été longtemps le cas. C'est qu'à force d'être exposé dans un monde où on fait ça tout le temps, eh bien, ça devient évident qu'on est conditionné comme ça à considérer que le masculin l'emporte. Ça, c'est valable partout, parce que l'empereur, sa femme et le petit prince, le masculin l'emporte. Sur les personnages dans les histoires, sur les contes de fées, alors Disney plus que les contes de fées en général, qui sont moins dans cette vision-là, mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Et cette manière dont on va considérer les enfants, dont on va leur permettre de développer telle compétence, de se comporter de telle ou telle manière, certaines compétences étant davantage développées chez les garçons que chez les filles. On dit toujours que les femmes sont plus empathiques, mais parce que les femmes, on les encourage à jouer avec des poupées, à jouer avec des jouets qui vont travailler les émotions des autres. Alors qu'un petit garçon à l'école maternelle qui va vouloir jouer avec une poupée, il y a de grandes chances que la pression, souvent des autres enfants, peut-être parfois malheureusement des adultes, le dissuade d'utiliser ça, parce que ça, c'est pas un jouet pour les garçons. Donc il va jouer avec des voitures. Et donc c'est normal qu'après, quand il se retrouve avec un enfant dans les bras des années plus tard, il soit moins à l'aise que quelqu'un qui s'est tellement entraîné. Et dans la même image, on dit toujours les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, pas les hommes. C'est faux, c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. Elles peuvent faire plusieurs choses à la fois parce qu'elles sont entraînées à faire plusieurs choses à la fois. Si un homme vous l'entraîne à faire plusieurs tâches, il saura le faire, il n'y a pas de problème. Mais culturellement, c'est presque devenu quelque chose de l'ordre de la blague. On va dire bah, les femmes savent faire plusieurs choses à la fois comme si c'était par nature, alors qu'en fait c'est construit. Ça, c'est parce qu'on l'a développé. Des hommes qui se retrouvent à devoir s'occuper de leurs enfants parce que leur femme a une mission et qu'ils ont un enfant en bas âge, et bah, cet homme, vous allez voir que très vite, s'il s'occupe d'un bébé pendant 3 semaines, même moins que ça, très vite il saura faire plusieurs choses à la fois. C'est parce qu'il n'aura pas le choix. Et comme les femmes n'ont pas le choix, donc elles développent, elles ont la compétence.
Les crises chez les personnes avec un trouble du neurodéveloppement expriment souvent un besoin non verbal, comme la fatigue ou le bruit, et il s'agit de comprendre ce besoin plutôt que de punir. La neurodivergence, qui inclut autisme, TDAH ou haut potentiel, se repère mieux avec un diagnostic précoce permettant un accompagnement efficace. La médiatisation aide à libérer la parole, mais le diagnostic reste plus difficile chez les filles. L'essentiel est de passer du jugement des comportements à la compréhension des besoins de chacun, en déconstruisant les stéréotypes et en développant l'esprit critique.
Il y a des éléments qui sont visibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que la personne a un trouble du neurodéveloppement et qu'on lui demande avec de l'imagerie cérébrale de faire certaines tâches, on peut constater que des zones du cerveau s'activent un petit peu différemment ou pas exactement comme la plupart des gens. Ça, on le voit et on sait que statistiquement, des personnes qui ont de l'autisme en particulier, leur cerveau peuvent fonctionner parfois de manière différente, s'activer de manière différente, c'est pas les mêmes zones. Mais ce n'est pas assez fin et pas assez précis, pas assez puissant d'un point de vue statistique Pour que quelqu'un dont on s'interroge sur un éventuel autisme le concernant, on fait de l'imagerie cérébrale et au regard des résultats, on va dire il y a ou il n'y a pas de l'autisme. Le diagnostic de l'autisme et des TND en général reste clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entretien, les comportements de la personne qui permettent d'eux. Aujourd'hui, dans l'état des lieux des connaissances, longtemps on a pensé que les personnes avec autisme, elles avaient certaines zones du cerveau qui étaient atrophiées, qui étaient plus grosses, qui étaient plus petites, parce qu'en faisant des cohortes, c'est qu'on a regardé plein de cerveaux de personnes autistes il y a très longtemps, et on a trouvé que le cervelet était un petit peu différent des cervelets des personnes tout venant. Sauf que ça, ça a été déconstruit par d'autres études qui mettent en évidence que c'est pas si simple, c'est pas si flagrant. Donc ce n'est pas du tout suffisant et on n'a pas d'éléments purement biologiques aujourd'hui, en 2025, qui nous permettent de dire on va regarder le cerveau de la personne, les organes, la taille des organes, le fonctionnement, les interactions, et ce sera suffisant pour poser un diagnostic. Peut-être qu'un jour on y viendra, quand on aura de l'imagerie plus fine que ce qu'on a aujourd'hui et qu'on comprendra mieux le cerveau, encore mieux le cerveau, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas hein, dans le fond du cerveau aujourd'hui, peut-être qu'on y viendra. Mais en tout cas aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas de perspective à court, moyen, long terme de faire du diagnostic cérébral. Pourtant, c'est très courtisé parce que ce serait quelque chose qui, pour certains chercheurs, serait très intéressant d'arriver à mettre en évidence. Certains travaillent dessus, mais aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Comme cette forme-là, elle arrive là, et pour certains mammifères, on constate aussi ces comportements-là. Il y a des études qui peuvent être montrées où on peut provoquer ça chez des souris. On peut constater que certains individus dans le règne animal peuvent avoir des comportements très atypiques qui pourraient évoquer ce que nous on associe aux troubles du neurodéveloppement. Dans ce sens-là, c'est naturel dans le sens où ça arrive. Il y a toujours eu des personnes avec ce fonctionnement-là, même si là aujourd'hui avec les facteurs environnementaux on montre que ça augmente un petit peu, c'est quand même quelque chose qui a toujours été là. Donc il y a un côté naturel. La différence, c'est que forcément, on comprend moins bien chez les animaux, et que pour beaucoup d'animaux, c'est une entrave à leur survie. Donc en fait, ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir perdurer dans le règne animal quelque part. Alors que pour nous, le fait de faire culture, une des caractéristiques de faire culture en tant qu'être humain, c'est de prendre soin les uns des autres, de ceux parmi nous qui ont des difficultés, donc par exemple un trouble neurodéveloppement, c'est quelque chose qui va être présent. C'est quelque chose qui va permettre qu'on comprenne, qu'on accompagne ces personnes-là. Et qui fait que, évidemment, dans notre culture, aujourd'hui et avec l'essor moderne, il y a une centaine d'années, on n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnements qu'il y a 500 ans. Ou du coup, des personnes qui avaient ces atypicités-là, selon le contexte culturel dans lequel elles évoluaient, elles pouvaient soit être amenées à disparaître très vite, qu'elles le veuillent ou non, soient amenées à être identifiées comme des divinités, selon les cultures dans lesquelles vous êtes. Ou du coup, dans certains endroits du monde, quelqu'un qui aurait ces atypicités-là pourrait avoir une vie merveilleuse garantie parce qu'on va le considérer comme l'expression d'une divinité, d'un esprit. Et donc, toute la société va prendre soin de lui, il aura une vie très épanouie. Dans d'autres endroits du monde, ça sera traité de façon beaucoup plus dure. Et qui fait que ça existe partout, dans tous les domaines, dans toutes les cultures. Donc il y a ce côté naturel, parce qu'en fait on retrouve toujours cette proportion-là, quelles que soient les origines, quel que soit le milieu socioculturel, ça existe. Maintenant, une forme d'évolution de l'espèce, ça voudrait dire un petit peu comme les X-Men, comme les mutants, que du coup il y a une mutation et que l'individu, au sens Darwin, grandisse et qu'il ait un avantage sur les autres. Ou la présence de sa mutation chez lui fait que lui, il a plus de chances de transmettre ses gènes à lui plutôt que les autres. Dans les X-Men, ils ont des pouvoirs, ils sont plus forts, donc par rapport à ceux qui n'ont pas de pouvoir, voilà. La personne qui a l'autisme ou un TND, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est plus forte? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes avec TND amènent quelque chose à l'espèce. Amènent quelque chose en termes de penser vivant, penser différemment, avoir un regard différent sur le monde. Et il y a beaucoup de personnes avec autisme en particulier dont l'intelligence peut aussi permettre un pas de côté et peut apporter beaucoup à l'humanité. Donc le fait de les intégrer dans notre société, c'est une vision inclusive. C'est pas on les prend avec nous parce que nous, on fait preuve d'une grâce ou on est bien gentil et voilà, ces petits gens-là. C'est qu'en fait, ils ont leur place au même titre que n'importe qui et que leur autisme ou leur TDAH ou leur neurodivergence, pour reprendre le terme, peuvent aussi contribuer à ce qu'elles aient un regard sur le monde qui va être différent de celui de la plupart des gens, et ce regard peut contribuer à l'évolution du monde aussi, comme celui de n'importe qui. Donc elles ont leur place. Beaucoup de personnes qui vivent avec des personnes autistes, par exemple, expliquent à quel point c'est difficile, c'est éprouvant, mais à quel point aussi ça peut les enrichir sur le plan humain et à quel point elles remercient, quelque part, le fait d'avoir cette occasion de vivre avec ces personnes neurodivergentes qui leur amènent un regard différent sur le monde et qui permet aussi de remettre en perspective les choses et qui sans doute contribuent à ce qu'on appelle le bonheur pour elles. Mon espoir, ce serait peut-être qu'on arrive à continuer à les impliquer le plus possible dans cette démarche-là, pour être sûr que nous, chercheurs, on cherche dans une direction qui serait fonctionnelle et qui répond à leurs besoins. Et pas chercher pour chercher. Parce que quand on est chercheur, souvent, on ne trouve pas. Ce qui compte, c'est l'effort qu'on déploie au service d'une cause. Et donc, mon espoir, c'est de garder toujours en tête cette cause et que cette cause elle soit co-construite avec les personnes qui en ont besoin et qui en bénéficient. Donc, de s'assurer que les personnes avec autisme, les personnes avec TND, les personnes avec TDAH et leurs proches, leurs familles, puissent être toujours interpellées et qu'on soit vigilant au fait que ce sur quoi on mobilise nos efforts dans le domaine de la recherche réponde à leurs besoins, réponde à quelque chose qui contribuerait à améliorer leur qualité de vie. Ce qui est par exemple le cas de ce qui est déployé aujourd'hui avec la cohorte Marianne.
L'autisme ne peut pas encore se diagnostiquer avec une radio ou une IRM. Le diagnostic reste clinique, basé sur l'observation et les entretiens avec des spécialistes. C'est une variation naturelle de l'humain qui a toujours existé. Selon les cultures, elle était parfois vue comme un don. Aujourd'hui, on comprend que les personnes autistes ou avec un TDAH perçoivent le monde différemment et apportent un regard unique. L'important n'est pas de les changer, mais de construire une société inclusive et de mieux comprendre leurs besoins pour améliorer leur quotidien et profiter de leur vision originale. Voilà, chers auditeurs, cette série de Repartons sur la Maison de la Recherche en santé mentale s'achève. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Repartons. En attendant, à bientôt sur nos ondes.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
HDR.
Filling the buckets overflowing with self-pity. What was I to ponder why? Reasons are led hand in hand by the smoke of her cigarette, imparting ways like strokes in her hair.
Got a vendetta, but never get it together. Your best friend is sane. I'm looking at life in a different light. I'm a beast in disguise. I'm waking up this morning, I got trust in my eyes. Funny how the money make a nigga go blind.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.
Roots and culture. They saw me autobiography. My little baby saw me autobiography. Word, they saw me autobiography. Cause this no music is a part of my philosophy. Whoa, me say me born in the city, in the ghetto of the town. Every day me just a hustle, just a move up and down. But can't find a baby man, me can't find a phone. Thank you, Jaja, for the sweet reggae sound. The pressures of life is a holy night down. Got to break the pressures, got to break them down. It's the truth and reality. My little baby, it's a really reality. Stood as a student just to study up history, study up chemistry, and biology, past mathematics, station integrity. I'm covered on this rocky with prophecy. Play the reggae music in your vicinity. Yes, it's on the roots, man, prophecy. Oh, it's the mama's story.
Drummer, I feel the beat. ashamed. I feel the heat.